nous traitons d'un grand sujet, d'un sujet très important, parce que parmi les maux les plus difficiles dont souffre l'homme d'aujourd'hui, il y a justement celui-là, celui de la solitude. Et pour l'introduire, nous lisons un texte que nous tirons au psaume 31e. Nous lisons à partir du verset 10e. Si donc vous aviez vos Bibles, vous pourriez suivre la lecture, sinon l'écouter. Voici ce qu'a dit un certain David dans une prière à son Dieu. Une prière qui certainement se dit et se répète partout dans le monde de la part de millions d'hommes et de femmes qui connaissent une solitude intérieure épouvantable. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Et mes os dépérissent. Puis au verset, un tout petit peu plus loin, au verset 13, le psalmiste dit encore ce qui suit. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Nous écoutons à présent une parole du Christ, lequel, après sa mort, après sa résurrection, après son ascension, a dit ce qui suit. En Apocalypse 3:20, un texte bien connu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Telle est donc la proposition que le Christ nous adresse à chacun, chacune ce soir dans ce lieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de sa vie, la porte de son cœur. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, ceci pour parler d'intimité, et lui avec moi. Je disais donc que parmi les maux les plus difficiles rencontrés aujourd'hui, il y a celui de la solitude, et ce, malgré ce siècle de la communication par excellence. Nous n'avons jamais autant communiqué qu'aujourd'hui. Et c'est aussi malgré les 5 milliards et plus d'individus que nous sommes sur notre bonne vieille terre. Et cette solitude aujourd'hui peut se vivre dans de pauvres baraques, certes. Mais elle se vit aussi dans de magnifiques demeures. Elle s'éprouve dans des hameaux, comme dans des villes fourmillantes de monde. Imaginez que la prospective ou la futurologie annonce que pour les années 2000, il y aura dans nos villes quelques 3 milliards d'individus. La moitié de la population du monde très bientôt se situera dans les villes. Il y aura des villes qui seront des hyper-métropoles, des méga. Comment est-ce qu'on peut les appeler, des macropoles, des villes tout à fait énormes de la population de la France, de mon pays, n'est-ce pas? Puisque on prévoit des villes qui dépasseront 50 millions d'habitants. Oh, Billy Graham a dit ce qui suit. Le plus grand problème auquel les hommes et les femmes ont à faire face aujourd'hui, c'est celui de la solitude. Il y a peut-être ici quelqu'un qui comprend ce que nous sommes en train de dire quand nous traitons de cet immense sujet de la solitude. Et la dépression souvent résulte d'un problème de solitude. que d'hommes et de femmes déprimés parce que seuls. Et là encore, peut-être que quelqu'un comprend ce que nous voulons dire. Mais gardons à l'esprit notre thème. Aujourd'hui, l'espoir, je ne vais pas vous laisser aller comme cela, broyant du noir au sortir d'ici, certainement pas. Il y a une réponse tout à fait extraordinaire en Jésus-Christ. Victor Hugo, pour sa part, a écrit ce qui suit dans la fin de Satan. L'enfer est tout entier dans un mot, solitude. François Sagan, qui est l'auteur de ce livre « Bonjour tristesse » qui a eu un certain succès, dans une interview, a dit ce qui suit « On n'en finit jamais avec le problème de la solitude ». Et le désir d'y échapper. Personne, c'est elle encore qui y parle, personne ne peut admettre quand il réfléchit ce terrible chemin quotidien vers la mort qu'est la solitude. Quant à Gabriel Marcel, un philosophe existentialiste réputé catholique, mort en 1973, a dit ce qui suit « Il n'y a qu'une souffrance ». C'est d'être seul. Et la solitude est source de grande détresse morale, de grande détresse spirituelle, de grande détresse matérielle également. Et puis cette solitude dont nous parlons ce soir peut s'éprouver à tous les âges. Il a été fait la preuve que l'on peut souffrir de solitude déjà dans le sein maternel. Oui, au niveau de fœtus non désirés, non souhaités, qu'il est convenu d'appeler des accidents, et que l'on tente d'évacuer par ce qu'il est convenu d'appeler l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Et quand je pense à mon pays, la France, je sais qu'aujourd'hui, 1000 enfants ont été ainsi assassinés de la manière la plus légale, puisqu'il y a 1000 avortements par jour, à peu près, bien entendu, en France. Et pour qui a vu le cri silencieux? Combien l'avez-vous vu, le cri silencieux? Levez la main pour voir. Vous avez pu regarder à ce fœtus qui semblait comprendre qu'on s'en prenait à lui pour le liquider et qui avait réagi en se rétractant, en quelque sorte, déjà seul dans le sein maternel, mais que c'est épouvantable. Tout près du cœur de la maman, déjà seule. Et puis, il y a le nourrisson aussi, entre 1 et 8 mois, qui se sent abandonné, rejeté. Nous en avons vu passer des dizaines chez nous, avec mon épouse, puisque depuis des années, nous sommes un foyer d'accueil destiné à dépanner des mamans ou à recevoir des enfants non désirés. Parce qu'avec mon épouse, nous voulions plusieurs enfants, ce qui n'a pas pu se faire. Mon épouse ayant été opérée après notre deuxième fille, Elisabeth. Et pour prendre une revanche, en quelque sorte, sur cette opération, sur cette hystérectomie, nous avons donc reçu chez nous des enfants sans affection, qui arrivaient à l'âge de 3 mois, comme Sylvie, qui est aujourd'hui notre secrétaire, à plein temps, au secrétariat de l'évangélisation à Paris. Sylvie, qui est arrivée à 3 mois, qui n'était pas aimée du tout, le nourrisson, qui a besoin d'affection, qui est rejeté. Sylvie, qui est aujourd'hui chrétienne, engagée, qui aime le Seigneur. Tous ces petits qui ne supportaient pas cette privation brutale de la présence maternelle, qui arrivaient chez nous sans savoir rire, ni jouer, ni sourire. Ça n'est pas du tout normal chez un enfant. Nous en avons vu passer plusieurs comme cela. Mais à force d'affection, ces enfants ont été littéralement métamorphosés parce que l'amour est ce qui répond à la solitude, au froid de la solitude. que l'enfant déjà peut éprouver. Et puis il y a aussi ces enfants qui sont un peu plus âgés, les 10, 13, 14 ans, qui, alors qu'ils les disent quoi, ce que nous entendons très couramment, « Je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, je suis triste. » D'affolant à cet âge, avec la plupart du temps perte d'appétit, perte du sommeil, anorexie mentale décelée très couramment chez les enfants du divorce. Oh, je ne voudrais pas ici réveiller peut-être chez certains des souvenirs difficiles ou chez les orphelins. Mais savez-vous que Jésus a traité du problème des enfants de cet âge ? En Matthieu 18, verset 6, « Oh, il a dit ce qui suit, si quelqu'un scandalisait un de ses petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une meule, hein, autour du cou pour le jeter au fond de la mer. » Le Christ a pris la défense de ces êtres innocents et qui déjà souffrent de solitude, ça n'est pas possible. Et puis, il y a les jeunes. Oui, les jeunes, en 1986, 3 jeunes en France sur 10 habitait encore la demeure paternelle. Les jeunes quittent de plus en plus vite la cellule familiale pour toutes sortes de raisons, pour leurs études parfois, ou encore pour raisons professionnelles ou par esprit d'indépendance, comme le fils prodigue. Molière, dans Le Misanthrope, a écrit ce qui suit : la solitude effraie une âme de 20 ans. Il y a peu de temps, me trouvant au Québec pour l'évangélisation, j'ai pu apprendre par la radio de cette voiture de location que j'avais prise à Montréal pour ma grande tournée québécoise qu'une jeune fille secrétaire à Toronto s'est suicidée après avoir vidé son cœur, après s'être confiée entièrement à qui, à quoi ? À son ordinateur de bureau. Parce qu'elle n'avait plus personne à qui se confier, et une fois son cœur vidé, elle a mis fin à ses jours, et en entrant dans son bureau, on l'a trouvée sans vie. On a interrogé son ordinateur, et son ordinateur avait reçu toutes ses confidences en même temps que ses dernières volontés. Mais ça n'est pas possible dans ce siècle de la communication qu'on n'ait plus personne à qui pouvoir dire ses détresses. Peut-être qu'il y a aussi là quelqu'un qui souffre dans ce sens et qui n'en peut plus de porter ce qu'il porte. Aujourd'hui, l'espoir avec Jésus-Christ. Hein. Tel est notre thème. Et puis, à propos des jeunes aussi qui souffrent de solitude, Le Point rapporté, le journal, le magazine Le Point, l'hebdomadaire, rapporté il y a peu de temps que dans un resto universitaire à Lyon, un étudiant étranger s'était hasardé, cherchant le contact, à dire bonjour à un étudiant français, lequel lui a répondu « Mais pourquoi est-ce que tu me dis bonjour ? Je t'ai rien fait. Je t'ai rien fait. » Et puis on souffre aussi dans ce domaine, quand on est adulte, là encore pour plusieurs raisons, on souffre de solitude pour raisons professionnelles. C'est fou ce que les Parisiens bougent, par exemple. Nous-mêmes, avec mon épouse, nous avons énormément déménagé, énormément bougé. Et il est inhérent à la vie moderne que nous connaissons de bouger pour mille et une raisons. Il y a aussi le fait que nous pourrions être étrangers, réfugiés, immigrés. Oh, la Bible parle de toutes ces situations. Et tout à l'heure, j'ai pu avoir sous les yeux ce texte du livre du Lévitique au chapitre 19e qui parle justement de l'immigré. Et juste en ce moment, en France en tout cas, le problème de l'immigration est un problème très aigu que nous vivons tous les jours sans pouvoir le résoudre. Mais voilà ce que dit Dieu, n'est-ce pas, à propos de l'étranger dans nos portes. Si un étranger, livre du Lévitique, chapitre 19, verset 33, si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous, comme quelqu'un d'entre vous. Vous l'aimerez comme vous-même. L'étranger dans nos portes. Pourquoi ? Deutéronome 18, parce que l'Éternel aime l'étranger. Pour nous chrétiens, souvent, nous n'avons pas compris que tous ces étrangers dans nos portes, où que ce soit, le Seigneur lui-même les a envoyés pour qu'ils puissent entendre l'Évangile, parce que ce phénomène de l'immigration, la plupart du temps, résulte de ces temps de colonisation que ces pays d'où ils nous viennent ont connu, une sorte de boomerang. Et comme rendus là-bas, nous ne les avons pas évangélisés, le Seigneur permet qu'ils viennent vers nous pour entendre le plus beau des messages la plupart du temps. Et puis aussi, on peut souffrir de solitude quand on est adulte, en raison de maladies souvent, de la souffrance. Dans la souffrance, on est souvent seul parce qu'incompris. Mais on peut être aussi seul parce que divorcé. Au Québec, il y a peu de temps, j'ai pu savoir que un mariage sur deux ne tient pas, termine dans le divorce, tandis qu'en France, nous en sommes à un mariage sur trois ou sur quatre, tout dépend des régions. En tout cas, à Paris, 50% des Parisiens sont des solitaires, et pour la plupart d'entre eux, parce que divorcés. Mais quelle souffrance! Quelle difficulté. Puis il y a aussi ces personnes âgées. Nous en avons en France 7 500 000, dont 75% disent connaître une solitude épouvantable. Il faut dire que le mode de vie aujourd'hui tend à séparer de façon brutale et cruelle les générations. Parce que l'éducation souvent ne se fait plus à la maison. Elle se fait hors de la maison, au collège, au lycée, à l'athénée, à l'université ou encore par la télévision, ou tout simplement au dehors, au contact des personnes du dehors, au bistrot, ou au sein de bandes dites de loubards qui sèment la panique dans certains quartiers de nos grandes villes. L'éducation ne se fait plus à la maison. Et puis j'ai là justement quelque chose que j'ai reçu en Suisse, que j'ai trouvé remarquable à propos de ces générations d'il y a peu de temps, de ce qu'elles pensent des parents et comment les choses couramment évoluent à leur niveau. À 6 ans, hein, les enfants disent: papa, c'est tout. À 10 ans, notre papa, c'est beaucoup de choses. Hein. À 15 ans, oh, nous en savons autant que papa. Aujourd'hui, hein, c'est ça. À 20 ans, décidément, papa ne sait plus grand-chose. À 30 ans, à 20 ans. À 30 ans, nous pourrions tout de même demander l'avis du père. À 40 ans, père, c'est quand même quelque chose. À 50 ans, père, c'est tout. À 60 ans, Ah, si nous pouvions encore demander l'avis du Père. C'est très souvent ainsi que les choses évoluent. À propos de la mère, à l'âge des personnages, maman, c'est maman. À l'âge des lilas, oh, il faut en parler à maman. À l'âge des roses, elle a l'air d'une grande sœur, maman. À l'âge des chrysanthèmes, il n'y avait qu'elle pour savoir tout cela. À l'âge des roses de Noël, comme elle était jolie et bonne, maman. Et qu'il est tellement dommage que nous en soyons arrivés à cet éclatement des familles. Et je dirais que c'est sous les coups de boutoir d'un ennemi épouvantable, celui que la Bible appelle Satan, que justement cet éclatement s'est opéré bien malheureusement. Vous savez, le vieillard autrefois était auréolé de prestige, hein, de savoir et d'expérience, il était respecté. Il était celui qui savait. Aujourd'hui, il est celui qui ne sait plus, qui ne sait rien. Et qui est bon à mettre au rancard. Aujourd'hui, le vieillard est devenu un marginal. Il n'a plus sa place dans la société, dans un monde qui insiste sur le travail, sur la productivité, sur la rentabilité, sur la technicité, sur le gain. Que voulez-vous que nous fassions des personnes âgées, lesquelles souffrent d'une solitude épouvantable? Autrefois, on mourait en famille. Les parents, les enfants vivaient ensemble la mort des plus âgés. On accompagnait le mourant de soins, de tendresse, d'affection. Aujourd'hui, le vieillard meurt seul. Voilà donc où nous en sommes et comment comprendre que nous en soyons arrivés là? Et imaginez que c'est dans les grandes villes qu'il y a les plus grandes solitudes. Michel Rocard, notre premier ministre en France, a dit il y a peu de temps ce qui suit dans un article que j'ai avec moi, dans ma Bible. Il y a un grand problème des villes aujourd'hui. Ceux qui y résident sont devenus étrangers les uns aux autres. La convivialité de jadis a laissé la place à l'indifférence quand ce n'est pas à la méfiance. On ne se parle plus. Et à propos de ne se plus parler, justement, un autre article que j'ai trouvé en même temps amusant que difficile. La vie est bizarre dans les immeubles modernes. À Paris, les voisins du dessous entendent tout ce que font les gens qui habitent au-dessus. Et ceci, nous l'avons vécu en famille, chez nous. Nous avons vécu 17 ans d'HLM. L'avantage, c'est que nous n'avions pas besoin de radio ni de télévision. On avait celle du voisin qui passait au travers des murs. Hein. Les gens qui habitent donc... je reprends ce que je disais. La vie est bizarre dans les immeubles parisiens. Les voisins du dessous entendent tout ce que font les gens qui habitent au-dessus, lesquels savent tout ce qui se passe chez leurs voisins de palier. Quant à ceux du premier, ils vivent pratiquement avec la concierge, mais personne ne parle à personne. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de situation pénible, mais à Paris, avec mon épouse, puisque nous étions à l'origine parisiens, nous avons, et nous le sommes toujours, puisqu'habitant une banlieue, mais nous faisons partie de ces 10 500 000 Parisiens, nous avons vécu pendant des années à Paris sans connaître le voisin de palier, lequel ne cherchait pas du tout le contact. Alors que faire pour tenter de remédier à tout cela. Bien sûr que l'homme recherche toutes sortes d'expédients pour tenter de remédier. Par exemple, j'ai là une histoire rapportée par un exemplaire du Figaro l'an dernier, assez amusante, sous le titre « Crever de solitude ». Quelqu'un de dire, un Français très seul, « Quand je me sens seul, je me regarde dans le miroir, alors on est deux. » Quand même pas une solution, ça. Hein. « Ensuite, je bois un bon coup, alors on est quatre. » Comprenez, on voit double. Hein. Mais le lendemain, quand je me réveille de mon ivrognerie, je suis encore tout seul. Oui, on peut essayer de trouver mille et une façons de se tirer d'affaire, mais elle ne joue pas. Oh, quant à un certain Jacques Brel, vous en savez quelque chose, puisque belge, hein, à l'origine, il a écrit une chanson sur la solitude tout à fait remarquable, et j'aimerais vous la lire, souffrez que je vous la lise. Vous la connaissez, cette chanson sur la solitude de Jacques Brel ? On est deux en amour et l'amour chante et rit, mais à la mort du jour, dans les draps de l'ennui, on se retrouve seul. On est dix à défendre les vivants par des morts, mais cloués par leurs cendres au poteau du remords, on se retrouve seul. Quand on est cent qui dansons au bal des bons copains, mais au dernier lampion, mais au premier chagrin, on se retrouve seul. On est mille contre mille, on se croit les plus forts, mais à l'heure imbécile, où ça fait 2000 morts, on se retrouve seul. On est des millions à rire, du million qui est en face, mais 2 millions de rires n'empêchent pas que dans la glace, on se retrouve seul. On est mille à s'asseoir au sommet de la fortune, mais dans la peur de voir tout fondre sous la lune, on se retrouve seul. On est sent que la gloire invite sans raison, mais quand on meurt, le hasard, quand finit, plutôt, quand meurt le hasard et quand finit la chanson, on se retrouve seul. Quand on est dix à coucher dans le lit de la puissance, mais devant ces armées qui s'enterrent en silence, on se retrouve seul. On est deux à vieillir contre le temps qui cogne. Mais lorsqu'on voit venir en riant la charogne, on se retrouve seul. On aurait tellement aimé crier à Jacques Brel qui a réellement un espoir. Un espoir en Jésus-Christ, lequel a dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de sa vie, mais j'entrerai chez lui, moi le Seigneur. » Le Sauveur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Oui, c'est à n'y rien comprendre que c'est dans des grandes villes fourmillantes de monde que les solitudes les plus cruelles sont rencontrées. Mais voyez-vous, la foule n'est pas forcément une solitude. Mais précisons les choses, il y a plusieurs sortes de solitude. Il y a cette solitude physique à laquelle souvent nous aspirons pour souffler un peu. Cette solitude qui est synonyme de tranquillité, de calme, de repos. Nous ne traitons pas de ce genre de solitude, mais quand cette solitude est mal employée, elle peut dégénérer en ennui. Et c'est fou ce que l'homme d'aujourd'hui peut s'ennuyer. Je lisais dernièrement dans un exemplaire de magazine Femme Actuelle. Vous le recevez, mon épouse l'achète de temps à autre quand les articles sont intéressants. Je crois que Femme Actuelle arrive ici, oui. Que précisément, nous vivons plus que jamais le siècle de l'ennui. Oh, c'est tellement vrai en France que le gouvernement a créé un ministère du temps libre afin de pouvoir aider les Français dans leur temps libre. Ils s'ennuient. Alors ils partent aux Baléares. Ils s'ennuient là-bas. Ils partent à la Martinique ou en Guadeloupe. Ce sont des îles que je connais très bien. J'y serai dans peu de temps, dans 25 jours. à la Martinique. Alors que de monde à la Martinique, bien entendu. On arrive là-bas, puis on s'ennuie. Oh, le terrible problème de l'ennui, il y a peut-être ici quelqu'un qui ne sait pas comment employer son temps. S'il est dans l'église, ou qu'il s'intéresse, enfin qu'il s'adresse plutôt aux responsables de l'église, parce que il y a pas mal à faire dans une église. Hein. Et si, par exemple, vous n'étiez pas chrétien de cœur, vraiment, tout pourrait changer. Si vous invitiez le Christ à entrer chez vous, il y a cet ennui qui peut dégénérer aussi en lassitude et qui peut nous faire verser dans toutes sortes de choses dangereuses. Je prends par exemple les jeux du hasard, les jeux d'argent. Un exemplaire du Nouvel Observateur nous faisait savoir il y a peu de temps qu'en France, nous Français, nous jouons au tiercé, au loto sportif, à tous les jeux de hasard. Savez-vous pour combien ? Oh, je n'ai pas fait la traduction en franc belge, mais vous êtes assez intelligent pour l'opérer rapidement dans vos esprits. Nous jouons annuellement en France pour 7 000 milliards de centimes. Bon courage, hein, et pour traduire ce chiffre en franc belge. Mais nous jouons pour des sommes tout à fait époustouflantes, à ne pas en croire nos oreilles. Parce que nous nous ennuyons, parce que nous ne supportons pas une solitude physique à laquelle souvent nous sommes contraints pour mille et une choses. Et pour ce qui est de la jeunesse, très souvent elle verse dans la délinquance et elle recherche la drogue. Oh, nous allons parler du problème de la drogue demain soir et d'autres problèmes encore, des passions, à l'heure qu'il est qui tiennent les hommes d'aujourd'hui. Et puis de grands fléaux qui balayent la planète. Nous parlerons de plusieurs problèmes d'actualité demain soir pour essayer de boucler. En fait, notre sujet, nous ne pourrons pas le faire de manière exhaustive parce que j'ai coutume le dernier soir de prêcher sur le retour de Christ. Hein. Et ce sera en particulier celui de l'enlèvement de l'Église. C'est une première solitude, une première façon d'être seul. La solitude physique, mais la plus difficile à supporter, c'est la solitude intérieure. Françoise Sagan a dit ce qui suit, la solitude en fait est une affaire du dedans. Ça n'est pas tellement une question, j'allais dire, de présence autour de nous. Et c'est une question de vie d'intérieur. Oui, parce que la solitude intérieure est assimilée au vide intérieur. Nous pourrions en parler comme d'une solitude morale, existentielle. Je me situais il y a peu de temps devant un parterre d'intellectuels africains au quartier latin. Je tiens 2 fois par année une conférence, un dîner conférence, aux intellectuels africains à Paris, au quartier latin. Et je traitais de cette solitude existentielle, en même temps que cette angoisse de vivre et de mourir. La solitude du cœur de l'homme est justement un vide intérieur épouvantable. Et tout à l'heure, nous l'avons entendu, un auteur anglais s'inspirant d'une pensée de Pascal a écrit ce qui suit, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu, et je le dis dans mon livre, Un seul chemin qu'on vous a tout à l'heure présenté. Et c'est à propos de cette solitude intérieure que François Sagan a dit, personne ne peut admettre quand il réfléchit ce terrible chemin quotidien vers la mort. Oh, la Bible parle de cette solitude intérieure, de ce vide, comme d'une mort intérieure. Dans ces textes que nous avons rappelés tout à l'heure, au psaume 31, verset 13, où le psalmiste a dit « Je suis oublié des cœurs, comme un mort. Je suis oublié des cœurs, comme un mort. » Oui, la solitude est une mort intérieure épouvantable. Oh, me rendant dans l'est de la France il y a quelques années, pour une série comme celle-ci de conférences, j'ai pu savoir à la radio de ma voiture qu'un jeune homme de 17 ans avait mis fin à ses jours après avoir laissé sur la table de son studio ces quelques mots « Plus personne ne m'aime ». C'est cela, être oublié des cœurs, hein. « Plus personne ne m'aime, la vie n'a plus aucune saveur pour moi, alors j'en termine avec elle, qu'il est dommage à 17 ans d'avoir déjà perdu tout appétit de vivre, tout goût de vivre. » Mais dans quelle situation, très souvent, l'homme d'aujourd'hui se trouve ne sachant plus comment résoudre ses immenses problèmes, et en particulier le problème de sa solitude. Pour vous détendre, avant de conclure, un jeune homme à Paris un jour, tandis que je ne voyageais pas encore comme je le fais depuis 15 ans, mais que j'implantais des églises dans Paris et dans la banlieue parisienne, un jeune homme un jour m'a dit ce qui suit, un employé des PTT, un jeune homme. Oh, quand j'ai fini mon travail et que je me retrouve seul dans ma chambre le soir, dans ma chambre de bonne, pourtant bien aménagée, j'ai comme une envie de me taper la tête contre les murs. Heureusement que ce jeune, ensuite, s'était tourné vers Christ pour régler de manière définitive la question de sa solitude intérieure, tous les soirs devant son camembert et devant son verre de Côte-du-Rhône. Ceci n'avait pas du tout réglé le problème de sa solitude ou devant son verre de Beaujolais primeur. Pourtant, Paris, je pense que vous ne le saviez pas, mais à Paris, à 6 heures du matin, 15 000 coqs se font entendre. Il y a encore des coqs à Paris, hein ? Et dans la région parisienne. Et puis là, un article du Sélection du Reader Digest parlant justement de chiffres concernant Paris, mais ça n'est pas pensable, au niveau de ses 10 500 000 habitants. Et écoutez bien cela. Pour leur petit déjeuner, les Parisiens et les Parisiennes vont avaler plus de 70 tonnes de café. Ça vous dit quelque chose, ça ? Avant de courir au travail, ou bien une tonne de thé, 25 tonnes de cacao, 550 000 litres de lait sont descendus chaque matin à Paris, hein, et entamés leurs 3 millions de baguettes de pain quotidien et leurs 2 500 000 croissants. Il y a du monde à Paris. L'heure de partir pour le travail arrive bientôt, et plusieurs milliers de pots de fond de teint et de flacons de lotion après le rasage sont rapidement épuisés. Plus de 1 700 000 femmes et 2 700 000 hommes descendent les escaliers de leur bloc, de leur immeuble, saluent l'une des 80 000 concierges de la capitale et prennent, parmi les 3 millions de lettres distribuées, seules celles qui leur reviennent. Ça vous dit quelque chose, ça ? On est seul à Paris. Avant de rejoindre leur lieu de travail, les Parisiens achètent près des 2 500 000 exemplaires de journaux publiés chaque jour, qu'ils règlent en puisant dans les 27 francs qu'ils ont en moyenne dans leur poche ou dans leur sac, soit 110 millions de francs qui se promènent chaque jour dans les rues de Paris. Dans une seule gare à Paris peut passer, comme celle de la gare de Lyon, peut passer 1 500 000 passagers. Et puis on est seul. Affreusement seul, je vous fais grâce du reste. Alors une question. Dieu a-t-il voulu que nous vivions seuls comme cela, sur cette terre? Certainement pas, parce que Dieu lui-même, après avoir créé l'homme en Adam, a dit ce qui suit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui donner une aide semblable à lui. De sorte qu'il a donné à l'homme, pour commencer, une dimension spirituelle, dans un sens vertical avec lui, déjà. L'homme ne devait jamais à l'origine se séparer de Dieu, mais il devait avoir pour compagnon de route et pour tous les jours de sa vie son Créateur. Ensuite, Dieu a donné à l'homme une dimension conjugale, en lui attribuant une épouse, en la personne d'Ève. Puis ensuite, il a donné à l'homme une dimension familiale. L'homme, qui est la plus extraordinaire créature de Dieu, parce que la seule faite à son image. L'homme a pu donc se reproduire de façon miraculeuse, Dieu l'ayant voulu ainsi pour pouvoir créer aussi la société. Dieu ayant donné à l'homme une dimension sociale dont il a tenu compte dans les 10 commandements. Il a créé donc le couple, la famille, la société, et Dieu n'a pas voulu que l'homme soit seul. Alors pourquoi autant de solitude? Oh, nous le disions hier soir, ou je ne sais plus, peut-être dans la campagne que j'ai terminée à Paris ces jours derniers. Pourquoi autant de problèmes? Pourquoi autant de solitude? La Bible dit ce qui suit. Toutes nos souffrances, toutes nos crises, tous nos problèmes ont leur origine dans notre séparation d'avec Dieu, pour commencer. Et tant que l'homme vit séparé de Dieu, il n'arrivera jamais à régler non seulement son problème de solitude, mais encore tous ses autres problèmes. Alors, comment réellement t'en sortir? Permettez que pour conclure, je vous parle d'un homme qui sait ce que représente être seul. Cet homme appelé Jésus a été seul en face de ses parents parce qu'incompris. En face de ses parents qui ont même dit de lui: mais il est hors de sens, ne comprenant pas la mission que son père lui avait confiée. Quand je parle de son père, je parle de son père des cieux. Ce même Jésus a été seul en présence de ses frères qui lui avaient été hostiles pendant quelque temps. Il a été aussi seul au milieu des siens, au milieu de ses contemporains, au milieu des Juifs qui n'avaient rien compris à sa venue sur cette terre, ni à son message. Ce même homme a été seul parce qu'abandonné de ses disciples au jour de son arrestation. Oui, le Christ a été encore seul au jour de son procès en présence du souverain sacrificateur Caïphe. Il a été seul au jour de son procès en présence de Pilate, un procès expéditif. Il a été seul en face du roi Hérode, qui s'était un peu joué de lui. Il a été seul, encore seul, souvent seul. Et pourtant, ce Jésus-là, parce que c'est la réponse, a dit à ses disciples ce qui suit en leur annonçant qu'ils allaient l'abandonner, le laisser seul. En Jean 16, 32, Jésus a dit à ses disciples: « Je ne suis pas seul. » Pourquoi? Parce que le Père est avec moi. Voilà donc la réponse. Et le Christ nous l'a fait connaître dans l'Évangile, et ce soir justement dans ce lieu, Et il nous l'a fait entendre, cette réponse. Je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Et quelle présence ! Pour le Christ, que celle de son Dieu, que celle de son Père céleste au travers de toutes ces circonstances qu'il a dû traverser la plupart du temps, difficiles, hostiles. Le Christ a pleuré. Le Christ a eu faim. Le Christ a été fatigué. Nous n'arrivons pas à comprendre ces choses. Moi, je ne puis vous les expliquer. Comment celui qui est la source d'énergie a été fatigué. Comment celui qui a créé toute chose pour que nous en jouissions en abondance, comment a-t-il pu avoir faim? Comment a-t-il pu avoir soif? Lui à qui a parlé d'eau vive à la femme samaritaine? Oh, la Bible dit qu'il s'est volontairement, le Christ, enfermé dans ses limitations qui sont les nôtres couramment. De sorte que nous avons un sauveur qui sait de quoi nous sommes faits, qui sait de quoi nous pouvons souffrir. Il a été rendu semblable à nous en toute chose, dit la Bible, hormis le péché. Lui n'a jamais péché. Mais s'il n'a jamais péché, la Bible dit qu'il a été fait péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Et tant que cette présence de son Père était avec lui, Jésus disait « Je ne suis pas seul ». Je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Et savez-vous que jusque dans ses derniers discours, alors qu'il savait ce qui était là devant lui, ce qu'il attendait, il savait qu'on allait venir se saisir de lui, il a parlé d'amour. Mais de quoi auriez-vous parlé, ami, si par exemple, à sa place, vous seriez situé, sachant qu'on allait se saisir de vous pour vous juger rapidement comme cela et puis pour vous expédier à la croix? Si on vous avait demandé vos dernières volontés, qu'auriez-vous dit? Si vous auriez comme lui parlé de paix, d'amour, de joie, et c'est quelques heures avant justement son arrestation, sa crucifixion, que le Seigneur a traité de ces grandes questions d'amour, de l'amour, de la paix, de la joie. Parce que la présence de son Père était avec lui, mais dans une circonstance précise, alors le Christ fut vraiment seul. Il fut vraiment seul sur la croix, abandonné de tous, abandonné du Père parce qu'il portait vos péchés, parce qu'il portait mes péchés, pour les expier à notre place, par amour pour nous, alors que personne ne l'y avait obligé. Et sur la croix, tandis qu'il était là, tout couvert de sueur, de poussière, de sang, subissant les moqueries du plus grand nombre. Le Christ a poussé ce cri que vous savez, ce cri de solitude, là vraiment. Le Christ a dit ce qui suit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors quand on me dit, c'est quoi la solitude en fait ? Elle consiste dans un abandon. Dans un abandon de Dieu. Et quand Alain Choiquier pense, quand j'ai repris ce message cet après-midi, afin de pouvoir le dispenser, le donner, le prêcher, en réfléchissant à cet abandon de Christ sur la croix, laissé seul, j'en avais été ému et j'ai dit au Seigneur, c'est pour moi que tu as accepté d'être seul sur la croix. Et il a été seul comme jamais personne n'a été seul au fond de lui-même. Et que signifie l'abandon de Dieu ? La Bible est claire, c'est l'enfer. c'est l'enfer. Et quand on me pose la question à la choquée, c'est quoi l'enfer? Je dis, c'est l'abandon de Dieu. Et le Christ a souffert l'enfer sur la croix. La Bible dit qu'il a porté non seulement nos péchés, ces péchés que nous ne pouvions pas expier, régler nous-mêmes. Pour le faire, le Christ les a portés à notre place sur la croix. Et il a porté ses péchés, les vôtres comme les miens, comme si nos péchés avaient été les siens. Oh, ne me demandez pas de vous expliquer cela davantage. Je sais que c'est vrai, le Christ l'a dit, la parole de Dieu le dit, c'est la vérité. Et parce qu'il a porté nos péchés comme s'ils avaient été les siens, il a aussi du même coup porté l'enfer qui résulte du péché. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est l'enfer. C'est la mort éternelle. C'est l'abandon de Dieu. Et sur la croix, le Christ a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui n'avait aucune expérience de l'abandon de Dieu. Il avait toujours vécu dans une intimité extraordinaire avec le Père, avec le Saint-Esprit. Et la Trinité elle-même nous dit que Dieu n'est pas seul. Et la Trinité, en fait, explique que Dieu soit amour. Et l'amour explique aussi la Trinité. Oh, la Bible dit que le Père aime le Fils, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus a dit, j'aime le Père, mais cette relation d'amour qu'il y a entre ces trois personnes de la Trinité qui ne sont qu'un seul Dieu. Ne me demandez pas de vous expliquer cela, moi. J'ai un tout petit cerveau. Et nous nous plairons un jour à poser ces questions à notre Dieu quand nous serons avec lui dans son ciel de gloire. Mais la Bible dit que le Père chérit l'Esprit de Dieu, qu'il a fait habiter en nous quand nous sommes chrétiens. Il y a une relation d'amour qui existe entre ces trois personnes de la Trinité qui ne forment qu'un seul Dieu. Et tout à coup, voilà le Fils séparé du Père à cause de vous, à cause de moi, à cause de nos péchés. Mais quel amour, parce que il nous aimait d'un amour que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pouvons pas soupçonner. Et en fait, c'est la privation du Dieu qui est l'amour dans sa personne, la joie dans sa personne, la paix dans sa personne. C'est la privation de ce Dieu qui est synonyme de solitude en même temps que d'enfer. Et puis la Bible nous fait savoir que le Christ a été seul sur la croix pour que nous ne soyons plus seuls nous-mêmes. Oh, quel message! Le Seigneur a véritablement pensé à nous en disant ce qui suit aux siens, par exemple, « Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'au bout de la route. » Je vous pose une question, est-ce que vous faites la route de la vie avec le Seigneur tous les jours? Ou bien êtes-vous tout seul? À qui adressez-vous vos premières paroles? Sitôt vos yeux ouverts le matin, à qui les adressez-vous vos dernières paroles le soir avant de vous laisser bercer, j'allais dire, dans les bras de Morphée, non, dans les bras du Seigneur, hein? Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'au bout de la route. Et ce Jésus, aux cœurs qui sont seuls ce soir, qui souffrent, qui ne peuvent plus continuer de porter ce qu'ils portent, ce même Jésus dit ce qui suit. Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et quand nous recevons le Christ chez nous, notre solitude est comblée par sa présence extraordinaire, de sorte qu'elle trouve une issue. Et puis une fois le Christ en nous, alors nous nous portons vers les autres, nous nous portons vers ceux qui sont seuls pour leur dire qu'il y a une réponse. Permettez que je vous lise le témoignage d'une personne qui, à Bruxelles, il y a un an, pour y tenir une campagne d'évangélisation, cette dame s'est donnée au Seigneur. Puis ensuite, elle a écrit son témoignage. Et je vais vous le lire, son témoignage, de sa plume qu'elle m'a envoyé chez moi, à Paris, et qu'elle a remis aussi à certains amis de l'église qu'elle fréquente maintenant à la chaussée de Wavre. À Bruxelles, voici son témoignage, témoignage de Liliane, mère de 5 enfants. J'ai eu la joie de la revoir ces semaines passées, au même endroit, puisque j'ai tenu encore une campagne dans cette église. Voici ce qu'elle a écrit. J'ai demandé la santé pour faire de grandes choses. Lui, il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'ai demandé la richesse pour pouvoir être heureuse. Lui m'a donné la pauvreté pour que je puisse être vraiment libre. J'ai demandé le succès en comptant sur l'appréciation des hommes. Lui m'a donné la faiblesse pour que j'éprouve le besoin de Dieu. J'ai demandé une compagnie. Parce que cette femme vit seule, hein. Enfin, elle n'a pas de conjoint. Pour ne pas vivre seule, lui, il m'a donné un cœur pour que je puisse aimer tout le monde. J'ai demandé toutes choses qui pourraient réjouir ma vie. Lui m'a donné la vie pour que je puisse me réjouir de toutes choses. Ainsi, je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais tout ce que j'avais profondément espéré. Je suis parmi tous mes frères et sœurs richement comblé. Elle écrivit cela le 4 décembre 1988. Richement comblé. Oh, le Seigneur voudrait vous visiter ce soir pour pardonner vos péchés, pour vous accorder une autre vie avec lui, pour vous donner d'entrer dans une nouvelle dimension d'existence. Il vous demande simplement la permission d'entrer chez vous. Pour faire de vous une nouvelle créature, la Bible dit, si quelqu'un rencontre le Christ, c'est un homme neuf, une femme nouvelle, un jeune homme nouveau, une jeune fille nouvelle. Alors qu'allez-vous faire ce soir? Comme Liliane de Bruxelles, lui ouvrir votre cœur pour que sa présence vous comble au-dedans, la solitude, une affaire du dedans, pour que sa présence vous comble au-dedans et pour qu'enfin vous puissiez réellement avoir cette compagnie, la meilleure entre toutes, celle du Seigneur, tous les jours de votre vie, pour souper avec lui. Noël est tout près. Afin de vivre un réel Noël, un vrai Noël, Christ en vous, dit la Bible, l'espérance de la gloire. Je vous invite maintenant à venir au Christ. Je vous invite à venir à lui, non pas à moi. Moi, je ne puis rien pour vous. Je vous demande de lui ouvrir votre cœur. Je vous demande de le prendre pour votre sauveur personnel. Vous pourrez ensuite tout lui dire ce soir chez vous. Lui raconter toute votre vie qu'il sait déjà. Et vous commencerez avec lui une amitié qui se poursuivra jusque dans l'éternité du ciel. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Oh, venez à Christ maintenant tel que vous êtes. Venez avec vos péchés, avec vos fardeaux, avec vos souffrances, avec vos larmes. Mais venez donc maintenant. Et ouvrez-vous à lui, branchez-vous sur lui, parce que lui est l'essentiel. Sans lui, c'est le vide existentiel. Alors, je vous demande de venir au Christ maintenant, mais peut-être vous n'avez pas les mots. Alors, je vais les dire, ces mots, dans une prière, pour vous aider. Vous allez les reprendre après moi, dans votre cœur, phrase après phrase. Seigneur Jésus, « Oh, ce message était pour moi ce soir, » dites-lui, « parce que je suis seul, seul dans ma vie, seul dans mon cœur. Oh Seigneur, merci, parce que ce soir, j'ai compris que je suis là pour une rencontre avec toi. » Pour une rencontre personnelle, parce que tu m'aimes et tu ne veux pas que je continue une route qui ne vaut pas la peine d'être poursuivie. Seigneur, je viens à toi puisque tu m'appelles à toi ce soir. Tu dis dans l'Évangile, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos, Seigneur, je viens. Je viens avec tout ce qui charge ma vie, mon cœur, mon passé, mon âme, ma conscience, Seigneur. Je viens et je dépose tout à tes pieds. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné ta vie. Je veux ce soir mettre ma confiance entière dans ton sacrifice pour mes péchés. Ô Seigneur, accueille-moi maintenant. Oh, serre-moi fort sur ton cœur parce que je te fais confiance. Seigneur, sauve-moi et remplis ma vie, de ta présence. Seigneur, j'accepte que tu entres chez moi. J'ai entendu que tu frappes ce soir à la porte de mon cœur. Seigneur, c'est oui, entre chez moi. Sois mon sauveur personnel, sauve-moi. Amen.